Chapitre 45. René à Louise. Tu te plains de mon silence? Tu oublies donc ces deux petites têtes brunes que je gouverne et qui me gouvernent. Tu as d'ailleurs trouvé quelques-unes des raisons que j'avais pour garder la maison. Outre l'état de notre précieux oncle, je n'ai pas voulu traîner à Paris un garçon d'environ 4 ans et une petite fille de 3 ans bientôt, quand je suis encore grosse. Je n'ai pas voulu embarrasser ta vie et ta maison d'un pareil ménage. Je n'ai pas voulu paraître à mon désavantage dans le brillant monde où tu règnes, et j'ai les appartements garnis, la vie des hôtels, en horreur. Le grand-oncle de Louis, en apprenant la nomination de son petit-neveu, m'a fait présent de la moitié de ses économies, 200 000 francs pour acheter à Paris une maison, et Louis est chargé d'en trouver une dans ton quartier. Ma mère me donne une 30 000 francs pour les meubles. Quand je viendrai m'établir pour la session à Paris, j'y viendrai chez moi. Enfin, je tâcherai d'être digne de ma chère sœur d'élection. Soit dit, sans jeu de mots. Je te remercie d'avoir mis Louis aussi bien en cour qu'il l'est. Mais malgré l'estime que font de lui messieurs de Bourmont et de Polignac, qui veulent l'avoir dans leur ministère, je ne le souhaite point si fort en vue. On est alors trop compromis. Je préfère la Cour des comptes à cause de son inamovibilité. Nos affaires seront ici dans de très bonnes mains, et une fois que notre régisseur sera bien au fait, je viendrai seconder Louis. Sois tranquille. Quant à écrire maintenant de longues lettres, le puis-je? Celle-ci, dans laquelle je voudrais pouvoir te peindre le train ordinaire de mes journées, restera sur ma table pendant 8 jours. Peut-être Armand en fera-t-il des cocottes pour ses régiments alignés sur mes tapis, ou des vaisseaux pour les flottes qui voguent sur son bain. Un seul de mes jours te suffira d'ailleurs. Ils se ressemblent tous et se réduisent à 2 événements. Les enfants souffrent ou les enfants ne souffrent pas. À la lettre, pour moi dans cette bastide solitaire, les minutes sont des heures ou les heures sont des minutes, selon l'état des enfants. Si j'ai quelques heures délicieuses, je les rencontre pendant leur sommeil quand je ne suis pas à bercer l'une et à conter des histoires à l'autre pour les endormir. Quand je les tiens endormis près de moi, je me dis « Je n'ai plus rien à craindre. » En effet, mon ange, durant le jour, toutes les mères inventent des dangers. Dès que les enfants ne sont plus sous leurs yeux, c'est des rasoirs volés avec lesquels Armand a voulu jouer, le feu qui prend à sa jaquette, un orvet qui peut le mordre, une chute en courant qui peut faire un dépôt à la tête, ou les bassins où il peut se noyer. Comme tu le vois, la maternité comporte une suite de poésies douces ou terribles. Pas une heure qui n'ait ses joies et ses craintes. Mais le soir dans ma chambre, arrive l'heure de ces rêves éveillés pendant laquelle j'arrange leur destinée. Leur vie est alors éclairée par le sourire des anges que je vois à leur chevet. Quelquefois, Armand m'appelle dans son sommeil. Je viens à son insu baiser son front et les pieds de sa petite sœur en les contemplant tous deux dans leur beauté. Voilà mes fêtes. Hier, notre ange gardien, je crois, m'a fait courir au milieu de la nuit, inquiète, au berceau d'Athénaïs qui avait la tête trop bas. Et j'ai trouvé notre Armand tout découvert, les pieds violets de froid. « Oh, petite mère !» m'a-t-il dit en s'éveillant et en m'embrassant. Voilà, ma chère, une scène de nuit. Combien il est utile à une mère d'avoir ses enfants à côté d'elle. Est-ce une bonne, tant bonne soit-elle, qui peut les prendre, les rassurer et les rendormir quand quelque horrible cauchemar les a éveillés? Car ils ont leurs rêves. Et leur expliquer un de ces terribles rêves est une tâche d'autant plus difficile qu'un enfant écoute alors sa mère d'un œil à la fois endormi, effaré, intelligent et niais. C'est un point d'orgue entre deux sommeils. Aussi, mon sommeil est-il devenu si léger que je vois mes deux petits et les entends à travers la gaze de mes paupières. Je m'éveille à un soupir, à un mouvement. Le monstre des convulsions est pour moi toujours accroupi au pied de leur lit. Au jour, le ramage de mes deux enfants commence avec les petits cris des oiseaux. À travers les voiles du premier sommeil, leur baragouinage ressemble au gazouillement du matin, aux disputes des hirondelles, petits cris joyeux ou plaintifs, que j'entends moins par les oreilles que par le cœur. Pendant que Naïs essaie d'arriver à moi en opérant le passage de son berceau à mon lit, en se traînant sur ses mains, en faisant des pas mal assurés, Armand grimpe avec l'adresse d'un singe et m'embrasse. Ces deux petits font alors de mon lit le théâtre de leur jeu, où la mère est à leur discrétion. La petite me tire les cheveux, veut toujours téter, et Armand défend ma poitrine comme si c'était son bien. Je ne résiste pas à certaines pauses, à des rires qui partent comme des fusées et qui finissent par chasser le sommeil. On joue alors à l'ogresse, et mère ogresse mange alors de caresses cette jeune chair si blanche et si douce. Elle baise à outrance ses yeux si coquets dans leur malice, ses épaules de rose, et l'on excite de petites jalousies qui sont charmantes. Il y a des jours où j'essaie de mettre mes bas à 8 heures et où je n'ai pas encore mis un à 9 heures. Enfin, ma chère, on se lève, les toilettes commencent, je passe mon peignoir, on retrousse ses manches, on prend devant soi le tablier ciré, je baigne et nettoie alors mes deux petites fleurs, assistées de Mary. Moi seule, je suis juge du degré de la chaleur ou de tiédeur de l'eau, car la température des eaux est pour la moitié dans les cris, dans les pleurs des enfants. Alors s'élèvent les flottes de papier, les petits canards de verre, il faut amuser les enfants pour pouvoir les nettoyer. Si tu savais tout ce qu'il faut inventer de plaisir à ces rois absolus, pour pouvoir passer de douces éponges dans les moindres coins, tu serais effrayé de l'adresse et de l'esprit qu'exige le métier de mère accompli glorieusement. On supplie, on gronde, on promet, on devient d'une charlatanerie d'autant plus supérieure qu'elle doit être admirablement cachée. On ne saurait que devenir si à la finesse de l'enfant, Dieu n'avait opposé la finesse de la mère. Un enfant est un grand politique dont on se rend maître comme du grand politique par ses passions. Heureusement, ces anges rient de tout. Une brosse qui tombe, une brique de savon qui glisse, voilà des éclats de joie. Enfin, si les triomphes sont chèrement achetés, il y a du moins des triomphes. Mais Dieu seul, car le Père lui-même ne sait rien de cela, Dieu, toi ou les anges, vous seuls donc pourriez comprendre les regards que j'échange avec Mary quand, après avoir fini d'habiller nos deux petites créatures, nous les voyons propres au milieu des savons, des éponges, des peignes, des cuvettes, des papiers brouillards, des flanelles, des mille détails d'une véritable nurserie. Je suis devenue anglaise en ce point. Je conviens que les femmes de ce pays ont le génie de la nourriture. Quoiqu'elles ne considèrent l'enfant qu'au point de vue du bien-être matériel et physique, elles ont raison dans leur perfectionnement. Aussi mes enfants ont-ils toujours les pieds dans la flanelle et les jambes nues. Ils ne seront ni serrés ni comprimés, mais aussi jamais ne seront-ils seuls. L'asservissement de l'enfant français dans ses bandelettes et la liberté de la nourrice. Voilà le grand mot. Une vraie mère n'est pas libre. Voilà pourquoi je ne t'écris pas, ayant sur les bras l'administration du domaine et 2 enfants à élever. La science de la mère comporte des mérites silencieux, ignorés de tous, sans parade, une vertu en détail, un dévouement de toutes les heures. Il faut surveiller les soupes qui se font devant le feu. Me crois-tu femme à me dérober à ce soin? Dans le moindre soin, il y a de l'affection à récolter. Oh, c'est si joli le sourire d'un enfant qui trouve son petit repas excellent. Armand a des hochements de tête qui valent toute une vie d'amour. Comment laisser à une autre femme le droit, le soin, le plaisir de souffler sur une cuillerée de soupe que Naïs trouvera trop chaude, elle que j'ai sevrée il y a 7 mois et qui se souvient toujours du sein. Quand une bonne a brûlé la langue et les lèvres d'un enfant avec quelque chose de chaud, elle dit à la mère qui accourt que c'est la faim qui le fait crier. Mais comment une mère dort-elle en paix avec l'idée que des haleines impures peuvent passer sur les cuillerées avalées par son enfant, elle à qui la nature n'a pas permis d'avoir un intermédiaire entre son sein et les lèvres de son nourrisson. Découpez la côtelette de Naïs qui fait ses dernières dents et mélanger cette viande cuite à point à des pommes de terre est une œuvre de patience. Et vraiment, il n'y a qu'une mère qui puisse savoir, dans certains cas, faire manger en entier le repas à un enfant qui s'impatiente. Ni domestiques nombreux, ni bonne anglaise ne peuvent donc dispenser une mère de donner en personne sur le champ de bataille où la douceur doit lutter contre les petits chagrins de l'enfance, contre les douleurs. Tiens, Louise, il faut soigner ces chers innocents avec son âme. Il faut ne croire qu'à ses yeux, qu'au témoignage de la main pour la toilette, pour la nourriture et pour le coucher. En principe, le cri d'un enfant est une raison absolue qui donne tort à sa mère ou à sa bonne, quand le cri n'a pas pour cause une souffrance voulue par la nature. Depuis que j'en ai 2, et bientôt 3 à soigner, je n'ai rien dans l'âme que mes enfants. Et toi-même, que j'aime tant, tu n'es qu'à l'état de souvenir. Je ne suis pas toujours habillée à 2 heures. Aussi, ne croyais-je pas aux mères qui ont des appartements rangés et des cols, des robes, des affaires en ordre. Hier, au 1er jour d'avril, il faisait beau. J'ai voulu les promener avec mes couches dont l'heure tinte. Eh bien, pour une mère, c'est tout un poème qu'une sortie. Et on se le promet la veille pour le lendemain. Armand devait mettre pour la première fois une jaquette de velours noir, une nouvelle collerette que j'avais brodée, une toque écossaise aux couleurs des Stuarts et à plumes de coq. Naïs allait être en blanc et rose, avec les délicieux bonnets des babies. Car elle est encore un baby. Elle va perdre ce joli nom quand viendra le petit qui me donne des coups de pied et que j'appelle mon mendiant, car il sera le cadet. J'ai vu déjà mon enfant en rêve, et je sais que j'aurai un garçon. Bonnet, collerette, jaquette, les petits bas, les souliers mignons, les bandelettes roses pour les jambes, la robe en mousseline brodée à dessins en soie. Tout était sur mon lit. Quand ces 2 oiseaux si gais et qui s'entendent si bien ont eu leur chevelure brune bouclée chez l'un, doucement amené sur le front et bordant le bonnet blanc et rose chez l'autre. Quand les souliers ont été agrafés, quand ses petits mollets nus, ses pieds si bien chaussés, ont trotté dans la nurserie, quand ses 2 faces cleans, comme dit Mary en français limpide, quand ses yeux pétillants ont dit « Allons !» Je palpitais. Oh, voir des enfants parés par nos mains, voir cette peau si fraîche où brillent les veines bleues quand on les a baignées, étuvées, épongées soi-même, rehaussées par les vives couleurs du velours ou de la soie. Mais c'est mieux qu'un poème. Avec quelle passion satisfaite à peine on les rappelle pour rebaiser ces coups qu'une simple collerette rend plus jolie que celui de la plus belle femme. Ces tableaux, devant lesquels les plus stupides lithographies coloriées arrêtent toutes les mères. Moi, je les fais tous les jours. Une fois sortie, jouissant de mes travaux, admirant ce petit Armand qui avait l'air du fils d'un prince et qui faisait marcher le baby le long de ce petit chemin que tu connais, une voiture est venue. J'ai voulu les ranger. Les 2 enfants ont roulé dans une flaque de boue. Et voilà mes chefs-d'œuvre perdus. Il a fallu les rentrer et les habiller autrement. J'ai pris ma petite dans mes bras sans voir que je perdais ma robe. Mary s'est emparée d'Armand et nous voilà rentrés. Quand un baby crie et qu'un enfant se mouille, tout est dit. Une mère ne pense plus à elle, elle est absorbée. Le dîner arrive. Je n'ai la plupart du temps rien fait. Et comment puis-je suffire à les servir tous deux, à mettre les serviettes, à relever les manches et à les faire manger? C'est un problème que je résous deux fois par jour. Au milieu de ces soins perpétuels, de ces fêtes et de ces désastres, il n'y a d'oublié que moi dans la maison. Il m'arrive souvent de rester en papillote quand les enfants ont été méchants. Ma toilette dépend de leur humeur. Pour avoir un moment à moi, pour t'écrire ces 6 pages, il faut qu'ils découpent les images de mes romances, qu'ils fassent des châteaux avec des livres, avec des échecs ou des jetons de nacre, que Naïs dévide mes soies ou mes laines, à sa manière qui, je t'assure, est si compliquée qu'elle y met toute sa petite intelligence et ne souffle mot. Après tout, je n'ai pas à me plaindre. Mes deux enfants sont robustes, libres, et ils s'amusent à moins de frais qu'on ne pense. Ils sont heureux de tout. Il leur faut plutôt une liberté surveillée que des joujoux. Quelques cailloux roses, jaunes, violets ou noirs, de petits coquillages, les merveilles du sable, font leur bonheur. Posséder beaucoup de petites choses, voilà leur richesse. J'examine Armand. Il parle aux fleurs, aux mouches, aux poules, il les imite, il s'entend avec les insectes qui le remplissent d'admiration. Tout ce qui est petit les intéresse. Armand commence à demander le pourquoi de toute chose. Il est venu voir ce que je disais à sa marraine. Il te prend d'ailleurs pour une fée, et vois comme les enfants ont toujours raison. Hélas, mon ange, je ne voulais pas t'attrister en te racontant ces félicités. Voici pour te peindre ton filleul. L'autre jour, un pauvre nous suit, car les pauvres savent qu'une mère accompagnée de son enfant ne leur refuse jamais une aumône. Armand ne sait pas encore qu'on peut manquer de pain. Il ignore ce qu'est l'argent, mais comme il venait de désirer une trompette que je lui avais achetée, il l'attend d'un air royal au vieillard en lui disant « Tiens, prends !»« Me permettez-vous de la garder ?» me dit le pauvre. Quoi sur la terre mettre en balance avec les joies d'un pareil moment? C'est que, madame, moi aussi j'ai eu des enfants, me dit le vieillard en prenant ce que je lui donnais sans y faire attention. Quand je songe qu'il faudra mettre dans un collège un enfant comme Armand, que je n'ai plus que 3 ans et demi à le garder, il me prend des frissons. L'instruction publique fauchera les fleurs de cette enfance bénie à toute heure, dénaturalisera ses grâces et ses adorables franchises. On coupera cette chevelure frisée que j'ai tant soignée, nettoyée et baisée. Que fera-t-on de cette âme d'Armand? Et toi, que deviens-tu? Tu ne m'as rien dit de ta vie. Aimes-tu toujours Felipe? Car je ne suis pas inquiète du sarrasin. Adieu. Naïs vient de tomber, et si je voulais continuer, cette lettre ferait un volume.
Lettre 46, Madame de Macumer à la Comtesse de l'Estorade. 1829. Les journaux t'auront appris, ma bonne et tendre Renée, l'horrible malheur qui a fondu sur moi. Je n'ai pu t'écrire un seul mot, je suis restée à son chevet pendant une vingtaine de jours et de nuits. J'ai reçu son dernier soupir, je lui ai fermé les yeux. Je l'ai gardé pieusement avec les prêtres et j'ai dit les prières des morts. Je me suis infligé le châtiment de ces épouvantables douleurs et cependant, en voyant sur ses lèvres sereines le sourire qu'il m'adressait avant de mourir, je n'ai pu croire que mon amour l'ait tué. Enfin, il n'est plus et moi, je suis. À toi qui nous as bien connus, que puis-je dire de plus ? tout est dans ces deux phrases. Oh, si quelqu'un pouvait me dire qu'on peut le rappeler à la vie, je donnerais ma part du ciel pour entendre cette promesse, car ce serait le revoir. Et le ressaisir, ne fût-ce que pendant 2 secondes, ce serait respirer le poignard hors du cœur. Ne viendras-tu pas bientôt me dire cela? Ne m'aimes-tu pas assez pour me tromper? Mais non, tu m'as dit à l'avance que je lui faisais de profondes blessures. Est-ce vrai? Non, je n'ai pas mérité son amour. Tu as raison, je l'ai volé. Le bonheur, je l'ai étouffé dans mes étreintes insensées. Oh, en t'écrivant, je ne suis plus folle, mais je sens que je suis seule. Seigneur, qu'est-ce qu'il y aura de plus dans votre enfer que ce mot-là? Quand on me l'a enlevé, je me suis couchée dans le même lit, espérant mourir, car il n'y avait qu'une porte entre nous. Je me croyais encore assez de force pour la pousser. Mais, hélas, j'étais trop jeune, et après une convalescence de 40 jours, pendant lesquels on m'a nourrie avec un art affreux par les inventions d'une triste science, je me vois à la campagne, assise à ma fenêtre au milieu des belles fleurs qu'il faisait soigner pour moi, jouissant de cette vue magnifique sur laquelle ses regards ont tant de fois erré, qu'il s'applaudissait tant d'avoir découverte, puisqu'elle me plaisait. Ah, chère, la douleur de changer de place est inouïe quand le cœur est mort. La terre humide de mon jardin me fait frissonner. La terre est comme une grande tombe, et je crois marcher sur lui. À ma première sortie, j'ai eu peur et suis restée immobile. C'est bien lugubre de voir ces fleurs sans lui. Ma mère et mon père sont en Espagne. Tu connais mes frères. Et toi, tu es obligé d'être à la campagne. Mais sois tranquille. 2 anges avaient volé vers moi. Le duc et la duchesse de Soria, ces 2 charmants êtres, sont accourus vers leurs frères. Les dernières nuits ont vu nos 3 douleurs, calmes et silencieuses, autour de ce lit, où mourait l'un de ces hommes vraiment nobles et vraiment grands, qui sont si rares, et qui nous sont alors supérieurs en toutes choses. La patience de mon Felipe a été divine. La vue de son frère et de Marie a, pour un moment, rafraîchi son âme et apaisé ses douleurs. « Cher, m'a-t-il dit avec la simplicité qu'il mettait en toute chose, j'allais mourir en oubliant de donner à Fernand la baronnie de Macumer. Il faut refaire mon testament. Mon frère me pardonnera, lui qui sait ce qu'est d'aimer. » Je dois la vie aux soins de mon beau-frère et de sa femme. Ils veulent m'emmener en Espagne. René, ce désastre, je ne puis en dire qu'à toi la portée. Le sentiment de mes fautes m'accable, et c'est une amère consolation que de te les confier, pauvre Cassandre inécoutée. Je l'ai tué par mes exigences, par mes jalousies hors de propos, par mes continuelles tracasseries. Mon amour était d'autant plus terrible que nous avions une exquise et même sensibilité. Nous parlions le même langage. Il comprenait admirablement tout. Et souvent ma plaisanterie allait, sans que je m'en doutasse, au fond de son cœur. Tu ne saurais imaginer jusqu'où ce cher esclave poussait l'obéissance. Je lui disais parfois de s'en aller et de me laisser seule. Il sortait, sans discuter une fantaisie de laquelle peut-être il souffrait. Jusqu'à son dernier soupir, il m'a béni, en me répétant qu'une seule matinée, seul à seul avec moi, valait plus pour lui qu'une longue vie avec une autre femme aimée, fût-ce Marie Hérédia. Je pleure en t'écrivant ces paroles. Maintenant, je me lève à midi, je me couche à 7 heures du soir. Je mets un temps ridicule à mes repas, je marche lentement, je reste 1 heure devant une plante, je regarde les feuillages, je m'occupe avec mesure et gravité de rien. J'adore l'ombre, le silence et la nuit. Enfin, je combats les heures et je les ajoute avec un sombre plaisir au passé. La paix de mon parc est la seule compagnie que je veuille. J'y trouve en toute chose les sublimes images de mon bonheur éteintes, invisibles pour tous, éloquentes et vives pour moi. Ma belle-sœur s'est jetée dans mes bras quand un matin je leur ai dit « Vous m'êtes insupportable. Les Espagnols ont quelque chose de plus que nous de grand dans l'âme. Ah, René, si je ne suis pas morte, c'est que Dieu proportionne sans doute le sentiment du malheur à la force des affligés. Il n'y a que nous autres femmes qui sachions l'étendue de nos pertes quand nous perdons un amour, sans aucune hypocrisie, un amour de choix, une passion durable dont les plaisirs satisfaisaient à la fois l'âme et la nature. Quand rencontrons-nous un homme si plein de qualités que nous puissions l'aimer sans avilissement ? Le rencontrer est le plus grand bonheur qui nous puisse advenir, et nous ne saurions le rencontrer deux fois. Hommes vraiment forts et grands, chez qui la vertu se cache sous la poésie, dont l'âme possède un charme élevé, fait pour être adoré, gardez-vous d'aimer. Vous causeriez le malheur de la femme et le vôtre. Voilà ce que je crie dans les allées de mes bois. Et pas d'enfant de lui. Cet intarissable amour qui me souriait toujours, qui n'avait que des fleurs et des joies à me verser, cet amour fut stérile. Je suis une créature maudite. L'amour pur et violent comme il est quand il est absolu, serait-il donc aussi infécond que l'aversion ? De même que l'extrême chaleur des sables du désert et l'extrême froid du pôle empêchent toute existence. Faut-il se marier avec un Louis de l'Estorade pour avoir une famille ? Dieu serait-il jaloux de l'amour ? Je déraisonne. Je crois que tu es la seule personne que je puisse souffrir près de moi. Viens donc, toi seul dois être avec une Louise en deuil. Quelle horrible journée que celle où j'ai mis le bonnet des veuves. Quand je me suis vue en noir, je suis tombée sur un siège et j'ai pleuré jusqu'à la nuit. Et je pleure encore en te parlant de ce terrible moment. Adieu, t'écrire me fatigue. J'ai trop de mes idées, je ne veux plus les exprimer. Amène tes enfants, tu peux nourrir le dernier ici, je ne serai plus jalouse. Il n'y est plus, et mon filleul me fera bien plaisir à voir. Car Felipe souhaitait un enfant qui ressemblât à ce petit Armand. Enfin, viens prendre ta part de mes douleurs.
Chapitre 47. René à Louise. 1829. Ma chérie, quand tu tiendras cette lettre entre les mains, je ne serai pas loin, car je pars quelques instants après te l'avoir envoyée. Nous serons seuls. Louis est obligé de rester en Provence à cause des élections qui vont s'y faire. Il veut être réélu, et il y a déjà des intrigues de nouer contre lui par les libéraux. Je ne viens pas te consoler, je t'apporte seulement mon cœur pour tenir compagnie au tien et pour t'aider à vivre. Je viens t'ordonner de pleurer. Il faut ainsi acheter le bonheur de le rejoindre un jour, car il n'est qu'en voyage vers Dieu. Tu ne feras plus un seul pas qui ne te conduise vers lui. Chaque devoir accompli rompra quelque anneau de la chaîne qui vous sépare. Allons, ma Louise, tu te relèveras dans mes bras, et tu iras à lui, pure, noble, pardonner de tes fautes involontaires et accompagner des œuvres que tu feras ici-bas en son nom. Je te trace ces lignes, à la hâte, au milieu de mes préparatifs, de mes enfants et d'Armand qui me crie « Marraine, marraine, allons la voir !» À me rendre jalouse, c'est presque ton fils.
« Lettre 48 de la baronne de Macumer à la comtesse de l'Estorade. 15 octobre 1834. Eh bien oui, René, on a raison, on t'a dit vrai. J'ai vendu mon hôtel, j'ai vendu Chantepleurs et les fermes de Seine-et-Marne. Mais que je sois folle et ruinée, ceci est de trop. Comptons. La cloche fondue, il m'est resté de la fortune de mon pauvre Macumer environ 1 200 000 francs. Je vais te rendre un compte fidèle en sœur bien apprise. J'ai mis 1 000 000 dans le 3% quand il était à 50 francs et me suis fait ainsi 60 000 francs de rente au lieu de 30 que j'avais en terre. Aller 6 mois de l'année en province, y passer des baux, y écouter les doléances des fermiers qui paient quand ils veulent, s'y ennuyer comme un chasseur par un temps de pluie, avoir des denrées à vendre et les céder à perte, habiter à Paris un hôtel qui représentait 10 000 livres de rente, placer des fonds chez des notaires, attendre les intérêts, être obligé de poursuivre les gens pour avoir ses remboursements, étudier la législation hypothécaire, enfin, avoir des affaires en Nivernais, en Seine-et-Marne, à Paris. Quel fardeau, quels ennuis, quel mécompte et quelle perte pour une veuve de 27 ans. Maintenant, ma fortune est hypothéquée sur le budget. Au lieu de payer des contributions à l'État, je reçois de lui, moi-même, sans frais, 30 000 francs tous les 6 mois au trésor, d'un joli petit employé qui me donne 30 billets de 1 000 francs et qui me sourit en me voyant. « Si la France fait banqueroute, me diras-tu ? » D'abord, je ne sais pas prévoir les malheurs de si loin. Mais la France me retrancherait alors tout au plus la moitié de mon revenu. Je serais encore aussi riche que je l'étais avant mon placement. Puis, d'ici la catastrophe, j'aurais touché le double de mon revenu antérieur. La catastrophe n'arrive que de siècle en siècle. On a donc le temps de se faire un capital en économisant. Enfin, le comte de l'Estorade n'est-il pas père de la France semi-républicaine de juillet? N'est-il pas un des soutiens de la couronne offerte par le peuple au roi des Français? Puis-je avoir des inquiétudes en ayant pour ami un président de chambre à la Cour des comptes, un grand financier? Ose dire que je suis folle. Je calcule presque aussi bien que ton roi citoyen. Sais-tu ce qui peut donner cette sagesse algébrique à une femme? L'amour. Hélas, le moment est venu de t'expliquer les mystères de ma conduite, dont les raisons fuyaient ta perspicacité, ta tendresse curieuse et ta finesse. Je me marie dans un village auprès de Paris, secrètement. J'aime, je suis aimée. J'aime autant qu'une femme qui sait bien ce qu'est l'amour peut aimer. Je suis aimée autant qu'un homme doit aimer la femme par laquelle il est adoré. Pardonne-moi, René, de m'être cachée de toi, de tout le monde. Si ta Louise trompe tous les regards, déjoue toutes les curiosités, avoue que ma passion pour mon pauvre Macumer exigeait cette tromperie. L'Estorade et toi, vous m'eussiez assassiné de doutes, étourdi de remontrances. Les circonstances auraient pu d'ailleurs vous venir en aide. Toi seule, sais à quel point je suis jalouse et tu m'aurais inutilement tourmentée. Ce que tu vas nommer ma folie, ma Renée, je l'ai voulu faire à moi seule, à ma tête, à mon cœur, en jeune fille qui trompe la surveillance de ses parents. Mon amant a pour toute fortune 30 000 francs de dette que j'ai payée. Quel sujet d'observation! Vous auriez voulu me prouver que Gaston est un intrigant, et ton mari eût espionné ce cher enfant. J'ai mieux aimé l'étudier moi-même. Voici 22 mois qu'il me fait la cour. J'ai 27 ans, il en a 23. D'une femme à un homme, cette différence d'âge est énorme. Autre source de malheur. Enfin, il est poète et vivait de son travail. C'est te dire assez qu'il vivait de fort peu de choses. Ce cher lézard de poète était plus souvent au soleil à bâtir des châteaux en Espagne qu'à l'ombre de son taudis à travailler des poèmes. Or, les écrivains, les artistes, tous ceux qui n'existent que par la pensée, sont assez généralement taxés d'inconstance par les gens positifs. Ils épousent et conçoivent tant de caprices qu'il est naturel de croire que la tête réagit sur le cœur. Malgré les dettes payées, malgré la différence d'âge, malgré la poésie, après 9 mois d'une noble défense et sans lui avoir permis de baiser ma main, après les plus chastes et les plus délicieuses amours, dans quelques jours, je ne me livre pas comme il y a 8 ans, inexpériente, ignorante et curieuse. Je me donne et suis attendue avec une si grande soumission que je pourrais ajourner mon mariage à 1 an. Mais il n'y a pas la moindre servilité dans ceci. Il y a servage et non-soumission. Jamais il ne s'est rencontré de plus noble cœur, ni plus d'esprit dans la tendresse, ni plus d'âme dans l'amour que chez mon prétendu. Hélas, mon ange, il a de qui tenir. Tu vas savoir son histoire en 2 mots. Mon ami n'a pas d'autre nom que ceux de Marie Gaston. Il est fils, non pas naturel, mais adultérin, de cette belle Lady Brandon, de laquelle tu dois avoir entendu parler, et que par vengeance, Lady Dudley a fait mourir de chagrin. Une horrible histoire que ce cher enfant ignore. Marie Gaston a été mis par son frère Louis Gaston au collège de Tours, d'où il est sorti en 1827. Le frère s'est embarqué quelques jours après l'y avoir placé, allant chercher fortune, lui dit une vieille femme qui a été sa providence à lui. Ce frère, devenu marin, lui a écrit de loin en loin des lettres vraiment paternelles et qui sont émanées d'une belle âme. Mais il se débat toujours au loin. Dans sa dernière lettre, il annonçait à Marie Gaston sa nomination au grade de capitaine de vaisseau dans je ne sais quelle république américaine, en lui disant d'espérer. Hélas, depuis 3 ans, mon pauvre lézard n'a plus reçu de lettres, et il aime tant ce frère qu'il voulait s'embarquer à sa recherche. Notre grand écrivain Daniel d'Arthez a empêché cette folie et s'est intéressé noblement à Marie Gaston, auquel il a souvent donné, comme me l'a dit le poète dans son langage énergique, la pâtée et la niche. En effet, juge de la détresse de cet enfant. Il a cru que le génie était le plus rapide des moyens de fortune. N'est-ce pas à en rire pendant 24 heures? Depuis 1828 jusqu'en 1833, il a donc tâché de se faire un nom dans les lettres. Et naturellement, il a mené la plus effroyable vie d'angoisse, d'espérance, de travail et de privation qui se puisse imaginer. Entraîné par une excessive ambition et malgré les bons conseils de d'Arthez, il n'a fait que grossir la boule de neige de ses dettes. Son nom commençait cependant à percer quand je l'ai rencontré chez la marquise d'Espard. Là, sans qu'il s'en doutât, je me suis sentie éprise de lui sympathiquement à la première vue. Comment n'a-t-il pas encore été aimé? Comment me l'a-t-on laissé? Oh, il a du génie et de l'esprit, du cœur et de la fierté. Les femmes s'effraient toujours de ces grandeurs complètes. N'a-t-il pas fallu 100 victoires pour que Joséphine aperçût Napoléon dans le petit Bonaparte, son mari? L'innocente créature croit savoir combien je l'aime. Pauvre Gaston, il ne s'en doute pas. Mais à toi je vais le dire. Il faut que tu le saches, car il y a, René, un peu de testament dans cette lettre. Médite bien mes paroles. En ce moment, j'ai la certitude d'être aimée autant qu'une femme peut être aimée sur cette terre. Et j'ai foi dans cette adorable vie conjugale où j'apporte un amour que je ne connaissais pas. Oui, j'éprouve enfin le plaisir de la passion ressentie. Ce que toutes les femmes demandent aujourd'hui à l'amour, le mariage me le donne. Je sens en moi pour Gaston l'adoration que j'inspirais à mon pauvre Felipe. Je ne suis pas maîtresse de moi. Je tremble devant cet enfant comme la Bancérage tremblait devant moi. Enfin, j'aime plus que je ne suis aimée. J'ai peur de toute chose, j'ai les frayeurs les plus ridicules, j'ai peur d'être quittée. Je tremble d'être vieille et laide quand Gaston sera toujours jeune et beau. Je tremble de ne pas lui plaire assez. Cependant, je crois posséder les facultés, le dévouement, l'esprit nécessaire pour, non pas entretenir, mais faire croire cet amour loin du monde et dans la solitude. Si j'échouais, si le magnifique poème de cet amour secret devait avoir une fin, que dis-je, une fin ? Si Gaston m'aimait un jour moins que la veille, si je m'en aperçois, René, sache-le, ce n'est pas à lui, mais à moi que je m'en prendrai. Ce ne sera pas sa faute, ce sera la mienne. Je me connais, je suis plus amante que mère. Aussi te le dis-je d'avance, je mourrai quand même j'aurai des enfants. Avant de me lier avec moi-même, ma Renée, je te supplie donc, si ce malheur m'atteignait, de servir de mère à mes enfants. Je te les aurais légués. Ton fanatisme pour le devoir, tes précieuses qualités, ton amour pour les enfants, ta tendresse pour moi, tout ce que je sais de toi me rendra la mort moins amère. Je n'ose dire douce. Ce parti pris avec moi-même ajoute je ne sais quoi de terrible à la solennité de ce mariage. Aussi n'y veux-je point de témoins qui me connaissent. Aussi mon mariage sera-t-il célébré secrètement. Je pourrai trembler à mon aise. Je ne verrai pas dans tes chers yeux une inquiétude. Et moi seul saurai qu'en signant un nouvel acte de mariage, je puis avoir signé mon arrêt de mort. Je ne reviendrai plus sur ce pacte fait entre moi-même et le moi que je vais devenir. Je te l'ai confié pour que tu connusses l'étendue de tes devoirs. Je me marie séparée de biens, et tout en sachant que je suis assez riche pour que nous puissions vivre à notre aise, Gaston ignore quelle est ma fortune. En 24 heures, je distribuerai ma fortune à mon gré. Comme je ne veux rien d'humiliant, j'ai fait mettre 12 000 francs de rente à son nom. Il les trouvera dans son secrétaire la veille de notre mariage. Et s'il ne les acceptait pas, je suspendrai tout. Il a fallu la menace de ne pas l'épouser pour obtenir le droit de payer ses dettes. Je suis lasse de t'avoir écrit ces aveux. Après-demain, je t'en dirai davantage, car je suis obligée d'aller demain à la campagne pour toute la journée. 20 octobre. Voici quelles mesures j'ai prises pour cacher mon bonheur, car je souhaite éviter toute espèce d'occasion à ma jalousie. Je ressemble à cette belle princesse italienne qui courait comme une lionne ronger son amour dans quelque ville de Suisse, après avoir fondu sur sa proie comme une lionne. Aussi ne te parlais-je de mes dispositions que pour te demander une autre grâce, celle de ne jamais venir nous voir sans que je t'en ai prié moi-même et de respecter la solitude dans laquelle je veux vivre. J'ai fait acheter, il y a 2 ans, au-dessus des étangs de Ville d'Avray, sur la route de Versailles, une 20aine d'arpents de prairies, une lisière de bois et un beau jardin fruitier. Au fond des prés, on a creusé le terrain de manière à obtenir un étang d'environ 3 arpents de superficie, au milieu duquel on a laissé une île gracieusement découpée. Les 2 jolies collines chargées de bois qui encaissent cette petite vallée filtrent des sources ravissantes qui courent dans mon parc, où elles sont savamment distribuées par mon architecte. Ces eaux tombent dans les étangs de la couronne, dont la vue s'aperçoit par échappée. Ce petit parc, admirablement bien dessiné par cet architecte, est, suivant la nature du terrain, entouré de haies, de murs, de sauts de loups, en sorte qu'aucun point de vue n'est perdu. À mi-côte, flanqué par les bois de la Ronce, dans une délicieuse exposition et devant une prairie inclinée vers l'étang, on m'a construit un chalet dont l'extérieur est en tout point semblable à celui que les voyageurs admirent sur la route de Sion à Brigue et qui m'a tant séduite à mon retour d'Italie. À l'intérieur, son élégance défie celle des chalets les plus illustres. À 100 pas de cette habitation rustique, une charmante maison, qui fait fabrique communique au chalet par un souterrain et contient la cuisine, les communs, les écuries et les remises. De toutes ces constructions en briques, l'œil ne voit qu'une façade d'une simplicité gracieuse et entourée de massifs. Le logement des jardiniers forme une haute fabrique et masque l'entrée des vergers et des potagers. La porte de cette propriété, cachée dans le mur qui sert d'enceinte du côté des bois, est presque introuvable. Les plantations, déjà grandes, dissimuleront complètement les maisons en 2 ou 3 ans. Le promeneur ne devinera nos habitations qu'en voyant la fumée des cheminées du haut des collines, ou dans l'hiver quand les feuilles seront tombées. Mon chalet est construit au milieu d'un paysage copié sur ce qu'on appelle le jardin du roi à Versailles. Mais il a vue sur mon étang et sur mon île. De toutes parts, les collines montrent leurs masses de feuillage, leurs beaux arbres si bien soignés par ta nouvelle liste civile. Mes jardiniers ont l'ordre de ne cultiver autour de moi que des fleurs odorantes et par milliers, en sorte que ce coin de terre est une émeraude parfumée. Le chalet, garni d'une vigne vierge qui court sur le toit, est exactement empaillé de plantes grimpantes, de houblons, de clématites, de jasmin, d'azaléas, de cobéas. Qui distinguera nos fenêtres pourra se vanter d'avoir une bonne vue. Ce chalet, ma chère, est une belle et bonne maison, avec son calorifère et tous les emménagements qu'a su pratiquer l'architecture moderne, qui fait des palais dans 100 pieds carrés. Elle contient un appartement pour Gaston et un appartement pour moi. Le rez-de-chaussée est pris par une antichambre, un parloir et une salle à manger. Au-dessus de nous se trouvent 3 chambres destinées à la nourricerie. J'ai 5 beaux chevaux, un petit coupé léger et un milord à 2 chevaux. Car nous sommes à 40 minutes de Paris. Quand il nous plaira d'aller entendre un opéra, de voir une pièce nouvelle, nous pourrons partir après le dîner et revenir le soir dans notre nid. La route est belle et passe sous les ombrages de notre haie de clôture. Mes gens, mon cuisinier, mon cocher, le palefrenier, les jardiniers, ma femme de chambre sont de fort honnêtes personnes que j'ai cherchées pendant ces 6 derniers mois et qui seront commandées par mon vieux Philippe. Quoique certaines de leur attachement et de leur discrétion, je les ai prises par leur intérêt. Elles ont des gages peu considérables, mais qui s'accroissent chaque année de ce que nous leur donnerons au jour de l'an. Tous savent que la plus légère faute, un soupçon sur leur discrétion, peut leur faire perdre d'immenses avantages. Jamais les amoureux ne tracassent leurs serviteurs. Ils sont indulgents par caractère. Ainsi, je puis compter sur nos gens. Tout ce qu'il y avait de précieux, de joli, d'élégant dans ma maison de la rue du Bac se trouve au chalet. Le Rembrandt est ni plus ni moins qu'une croûte dans l'escalier. L'Obéma se trouve dans son cabinet en face de Rubens. Le Titien que ma belle-sœur Marie m'a envoyé de Madrid orne le boudoir. Les beaux meubles trouvés par Felipe sont bien placés dans le parloir que l'architecte a délicieusement décoré. Tout au chalet est d'une admirable simplicité, de cette simplicité qui coûte 100 000 francs. Construit sur des caves en pierre meulière assises sur du béton, notre rez-de-chaussée, à peine visible sous les fleurs et les arbustes, jouit d'une adorable fraîcheur, sans la moindre humidité. Enfin, une flotte de cygnes blancs vogue sur l'étang. Oh, René, il règne dans ce vallon un silence à réjouir les morts. On y est éveillé par le chant des oiseaux ou par le frémissement de la brise dans les peupliers. Il descend de la colline une petite source trouvée par l'architecte en creusant les fondations du mur du côté des bois, qui court sur du sable argenté vers l'étang entre 2 rives de cressons. Je ne sais pas si quelque somme peut la payer. Gaston ne prendra-t-il pas ce bonheur trop complet en haine? Tout est si beau que je frémis. Les vers se logent dans les bons fruits, les insectes attaquent les fleurs magnifiques. N'est-ce pas toujours l'orgueil de la forêt que ronge cette horrible larve brune dont la voracité ressemble à celle de la mort ? Je sais déjà qu'une puissance invisible et jalouse attaque les félicités complètes. Depuis longtemps tu me l'as écrit d'ailleurs, et tu t'es trouvé prophète. Quand, avant-hier, je suis allée voir si mes dernières fantaisies avaient été comprises, j'ai senti des larmes me venir aux yeux, et j'ai mis sur le mémoire de l'architecte, à sa très grande surprise, « Bon à payer ». « Votre homme d'affaires ne paiera pas, madame, » m'a-t-il dit. « Il s'agit de 300 000 francs. » J'ai ajouté « Sans discussion. » En vrai Chaulieu du XVIIe siècle. « Mais, monsieur, lui dis-je, je mets une condition à ma reconnaissance. Ne parlez de ces bâtiments et du parc à qui que ce soit. Que personne ne puisse connaître le nom du propriétaire. Promettez-moi sur l'honneur d'observer cette clause de mon paiement. » Comprends-tu maintenant la raison de mes courses subites, de ces allées et venues secrètes ? Vois-tu où se trouvent ces belles choses qu'on croyait vendues ? Saisis-tu la haute raison du changement de ma fortune ? Ma chère, aimer est une grande affaire, et qui veut bien aimer ne doit pas en avoir d'autre. L'argent ne sera plus un souci pour moi. J'ai rendu la vie facile, et j'ai fait une bonne fois la maîtresse de maison, pour ne plus avoir à la faire, excepté pendant 10 minutes tous les matins avec mon vieux majordome Philippe. J'ai bien observé la vie et ses tournants dangereux. Un jour, la mort m'a donné de cruels enseignements, et j'en veux profiter. Ma seule occupation sera de lui plaire et de l'aimer, de jeter la variété dans ce qui paraît si monotone aux êtres vulgaires. Gaston ne sait rien encore. À ma demande, il s'est, comme moi, domicilié sur Ville-d'Avray. Nous partons demain pour le chalet. Notre vie sera là peu coûteuse, mais si je te disais pour quelle somme je compte ma toilette, tu dirais, et avec raison, « Elle est folle !» Je veux me parer pour lui tous les jours, comme les femmes ont l'habitude de se parer pour le monde. Ma toilette à la campagne, toute l'année, coûtera 24 000 francs, et celle du jour n'est pas la plus chère. Lui peut se mettre en blouse s'il le veut. Ne va pas croire que je veuille faire de cette vie un duel et m'épuiser en combinaison pour entretenir l'amour. Je ne veux pas avoir un reproche à me faire, voilà tout. J'ai 13 ans à être femme. Je veux être aimée le dernier jour de la 13e année, encore mieux que je ne le serai le lendemain de mes noces mystérieuses. Cette fois, je serai toujours humble, toujours reconnaissante, sans paroles caustiques. Et je me fais servante, puisque le commandement m'a perdue une première fois. Oh, René, si comme moi, Gaston a compris l'infini de l'amour, je suis certaine de vivre toujours heureuse. La nature est bien belle autour du chalet. Les bois sont ravissants. À chaque pas, les plus frais paysages, des points de vue forestiers, font plaisir à l'âme en réveillant de charmantes idées. Ces bois sont pleins d'amour, pourvu que j'aie fait autre chose que de me préparer un magnifique bûcher. Après-demain, je serai Madame Gaston. Mon Dieu, je me demande s'il est bien chrétien d'aimer autant un homme. « Enfin, c'est légal, » m'a dit notre homme d'affaires, qui est un de mes témoins, et qui, voyant enfin l'objet de la liquidation de ma fortune, s'est écrié « J'y perds une cliente !»« Toi, ma belle biche, je n'ose plus dire « aimer », tu peux dire « J'y perds une sœur !» Mon ange adresse désormais à Madame Gaston, poste restante, à Versailles. On ira prendre nos lettres, là, tous les jours. Je ne veux pas que nous soyons connus dans le pays. Nous enverrons chercher toutes nos provisions à Paris. Ainsi, j'espère pouvoir vivre mystérieusement. Depuis un an que cette retraite est préparée, on n'y a vu personne, et l'acquisition a été faite pendant les mouvements qui ont suivi la révolution de juillet. Le seul être qui se soit montré dans le pays est mon architecte. On ne connaît que lui qui ne reviendra plus. Adieu. En t'écrivant ce mot, j'ai dans le cœur autant de peine que de plaisir. N'est-ce pas te regretter aussi puissamment que j'aime Gaston ?
Octobre 1834. Mon cher Daniel, j'ai besoin de deux témoins pour mon mariage. Je vous prie de venir chez moi demain soir en vous faisant accompagner de notre ami le bon et grand Joseph Bridau. L'intention de celle qui sera ma femme est de vivre loin du monde et parfaitement ignorée. Elle a pressenti le plus cher de mes vœux. Vous n'avez rien su de mes amours, vous qui m'avez adouci les misères d'une vie pauvre. Mais, vous le devinez, ce secret absolu fut une nécessité. Voilà pourquoi, depuis un an, nous nous sommes si peu vus. Le lendemain de mon mariage, nous serons séparés pour longtemps. Daniel, vous avez l'âme faite à me comprendre. L'amitié subsistera sans l'ami. Peut-être aurai-je parfois besoin de vous, mais je ne vous verrai point, chez moi du moins. Elle est encore allée au-devant de nos souhaits en ceci. Elle m'a fait le sacrifice de l'amitié qu'elle a pour une amie d'enfance qui, pour elle, est une véritable sœur. J'ai dû lui immoler mon ami. Ce que je vous dis, ici, vous fera sans doute deviner non pas une passion mais un amour entier, complet, divin, fondé sur une intime connaissance entre les deux êtres qui se lient ainsi. Mon bonheur est pur, infini. Mais comme il est une loi secrète qui nous défend d'avoir une félicité sans mélange, au fond de mon âme, et enseveli dans le dernier repli, je cache une pensée par laquelle je suis atteint tout seul et qu'elle ignore. Vous avez trop souvent aidé ma constante misère pour ignorer l'horrible situation dans laquelle j'étais. Où puisais-je le courage de vivre lorsque l'espérance s'éteignait si souvent? Dans votre passé, mon ami, chez vous, où je trouvais tant de consolation et de secours délicats. Enfin, mon cher, mes écrasantes dettes, elle les a payées. Elle est riche et je n'ai rien. Combien de fois n'ai-je dit dans mes accès de paresse « Ah, si quelque femme riche voulait de moi !» Eh bien, en présence du fait, les plaisanteries de la jeunesse insouciante, le parti pris des malheureux sans scrupules, tout s'est évanoui. Je suis humilié, malgré la tendresse la plus ingénieuse. Je suis humilié. Malgré la certitude acquise de la noblesse de son âme, je suis humilié tout en sachant que mon humiliation est une preuve de mon amour. Enfin, elle a vu que je n'ai pas reculé devant cet abaissement. Il est un point où, loin d'être le protecteur, je suis le protégé. Cette douleur, je vous la confie. Hors ce point, mon cher Daniel, les moindres choses accomplissent mes rêves. J'ai trouvé le beau sans tache, le bien sans défaut. Enfin, comme on dit, la mariée est trop belle. Elle a de l'esprit dans la tendresse. Elle a ce charme et cette grâce qui mettent de la variété dans l'amour. Elle est instruite et comprend tout. Elle est jolie, blonde, mince et légèrement grasse, à faire croire que Raphaël et Rubens se sont entendus pour composer une femme. Je ne sais pas s'il m'eût jamais été possible d'aimer une femme brune autant qu'une blonde. Il m'a toujours semblé que la femme brune était un garçon manqué. Elle est veuve. Elle n'a point d'enfant. Elle a 27 ans. Quoique vive, alerte, infatigable, elle sait néanmoins se plaire aux méditations de la mélancolie. Ses dons merveilleux n'excluent pas chez elle la dignité ni la noblesse. Elle est imposante. Quoiqu'elle appartienne à l'une des vieilles familles les plus entichées de noblesse, elle m'aime assez pour passer par-dessus les malheurs de ma naissance. Nos amours secrets ont duré longtemps. Nous nous sommes éprouvés l'un l'autre. Nous sommes également jaloux. Nos pensées sont bien les deux éclats de la même foudre. Nous aimons tous deux pour la première fois et ce délicieux printemps a renfermé dans ses joies toutes les scènes que l'imagination a décorées, de ses plus riantes, de ses plus douces, de ses plus profondes conceptions. Le sentiment nous a prodigué ses fleurs. Chacune de ces journées a été pleine, et quand nous nous quittions, nous nous écrivions des poèmes. Je n'ai jamais eu la pensée de tenir cette brillante saison par un désir, quoique mon âme en fût sans cesse troublée. Elle était veuve et libre, elle a merveilleusement compris toutes les flatteries de cette constante retenue. Elle en a souvent été touchée aux larmes. Tu entreverras donc, mon cher Daniel, une créature vraiment supérieure. Il n'y a pas même eu de premier baiser de l'amour. Nous ne sommes craints l'un l'autre. Nous avons, m'a-t-elle dit, chacun une misère à nous reprocher. Je ne vois pas la vôtre. Mon mariage, a-t-elle répondu. Vous qui êtes un grand homme et qui aimez une des femmes les plus extraordinaires de cette aristocratie où j'ai trouvé mon amande, ce seul mot vous suffira pour deviner cette âme et quel sera le bonheur de votre ami. Marie Gaston.